Bonjour, je suis Cécile Paliès et vous écoutez un podcast du Réseau Santé Bruxellois enregistré lors d'un débat organisé autour de la sécurité des données santé partagées. Suite à la demande rencontrée pour l'enregistrement de notre vidéoconférence, nous sommes heureux de partager avec vous ces moments sous forme de podcast, malgré une qualité sonore imparfaite. Aujourd'hui, Vincent Claes, rédacteur en chef du Journal du médecin, va au vif du sujet. Qui a réellement accès aux données santé ? Thibaut de Villiers, administrateur général adjoint de la plateforme eHealth, lui répond et revient sur les notions de consentement, de relation thérapeutique et de matrice d'accès, les trois conditions pour accéder aux données de santé partagées via les réseaux de santé.
Qui a accès à ces données et quelle doit être la relation de l'émetteur de la donnée par rapport au patient ?
C'est essentiel, effectivement, le patient donne son consentement éclairé au partage électronique de ses données de santé. De mémoire, on est aujourd'hui à 10,3 millions de citoyens qui ont donné ce consentement.
Presque tous les Belges, quasi, pas voilà. 80%.
Exactement. Cela étant, on se rend compte qu'il y a encore un gros effort de communication à faire autour de ce consentement. Parce que, soyons très honnêtes, effectivement aussi, même si on n'est pas ici pour parler de la sécurité, il faut aussi avoir un discours transparent et honnête par rapport aux citoyens. Dans beaucoup de cas, le consentement est donné, mais quand vous rendez, on parlait tantôt des admissions, vous êtes là pour une hospitalisation, vous signez plein de papiers pour une chambre individuelle ou commune. Voilà, il y a peut-être un document que vous signez sur le partage électronique de données de santé. Donc, c'est un opt-in, c'est un consentement. Le patient, est-ce qu'il a vraiment été éclairé juridiquement sur les tenants et aboutissements du consentement par la personne au guichet? On pourrait peut-être en douter, ce qui explique ce nombre relativement important. Il faut donc être honnête par rapport à ça. Deuxième chose, c'est la relation thérapeutique, effectivement, qui a été évoquée. Et ça, c'est essentiel. Donc, les relations thérapeutiques, c'est vraiment l'idée que c'est uniquement un prestataire de soins qui soigne, donc qui assure une qualité continue de soins. C'est-à-dire que le pharmacien du coin de la rue, si je n'ai pas été chez lui, si je n'ai pas été chez le kiné d'à côté, ils ne peuvent pas accéder à mon dossier. Ils n'ont pas une relation thérapeutique avec moi. Cette relation thérapeutique se crée notamment quand on donne, par exemple, à son médecin, sa carte d'identité électronique pour la première fois, eh bien, alors la relation thérapeutique est créée pour une durée qui est renouvelable, etc. Et un exemple que je donnerai pour bien montrer que c'est important et qu'au niveau des autorités, et d'ailleurs avec nos partenaires aussi, ici autour de la table, on est très vigilants. Il y a un début de l'année, un projet qui est sorti et qui a fait beaucoup de bruit au niveau médiatique, qui était le fait qu'on se comptait ouvrir pour la médecine d'assurance le dossier du patient. Et donc là, il y a eu une levée de bouclier. Nous-mêmes, au niveau de la plateforme IELTS, on était tout à fait opposés parce que les règlements et la confiance du citoyen reposent dans le fait que c'est une relation thérapeutique. Et donc, effectivement, voilà, une relation thérapeutique, un médecin assurance est là dans une relation qui est tout autre, idem pour le médecin conseil, un médecin contrôle. Ils sont exclus du système. Donc ça, c'est vraiment très important.
Dans notre système de partage de données de santé informatisé, la sécurité réside également dans le fait que tous les accès sont informatisés et traçables. Maître Jean-Marc Van Giesegem, Data Protection Officer du Réseau Santé Bruxellois, rappelle ici les sanctions encourues pour le non-respect des conditions d'accès.
Qu'est-ce qui se passe si on se rend compte qu'un praticien à l'hôpital ou un médecin généraliste consulte des données auxquelles il ne... D'abord, est-ce que c'est possible? Et puis, si c'est possible, qu'est-ce qu'il encourt d'avoir fait ce genre de choses?
Possible, ce l'est, parce qu'évidemment, il y a une responsabilisation des praticiens et donc ils sont informés sur le fait qu'ils ne peuvent accéder que s'il y a eu un double consentement, c'est-à-dire, un, le consentement du patient, deux, qu'ils aient eux-mêmes consenti à respecter les règles de fonctionnement du réseau, parce que c'est ça aussi qui est très important quand on s'inscrit sur le réseau, c'est qu'on accepte les règles de fonctionnement. Et une de ces règles, c'est de dire, je dois avoir le lien thérapeutique. Alors, si j'accède malgré tout avec ma casquette de médecin dans un dossier d'un patient qui est en réalité pas dans une relation thérapeutique avec moi, mais dans une relation de contrôle, par exemple médecin contrôle, médecin assurance, il y a une infraction. Il y a une infraction qui est faite par rapport, un, aux règles de fonctionnement du réseau. Et donc, ça veut dire qu'il peut encourir une exclusion du réseau, dans le sens où le réseau fermera l'accès, tout simplement, parce qu'il n'a pas respecté les règles du savoir-vivre. Et à côté de ça, il peut y avoir le dépôt d'une plainte au pénal, puisqu'il a finalement utilisé un profil erroné, un faux profil, finalement, pour accéder à des données, alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas y accéder. Et puis, il y a aussi des plaintes possibles vers le vers l'ordre des médecins, qui pourra lui-même prendre une sanction. Voilà, il y a une série d'actions qui peuvent être entreprises très rapidement. Alors, l'une, la plus rapide, c'est la fermeture de l'accès. Ça, c'est la plus rapide, évidemment. Et puis d'autres qui vont être beaucoup plus coercitives, qui vont être beaucoup plus, je veux dire, avec un impact sur la personne beaucoup plus grande. C'est la plainte pénale, puisque là, finalement, c'est la société qui va se rebeller contre le mauvais exemple. Et puis, il y a l'ordre, surtout, qui peut prendre là des décisions d'exclure définitivement le médecin. Donc, on peut aller très, très haut dans la chaîne. Et je pense que c'est ça aussi qui est finalement une règle qui garantit que chacun va jouer le jeu, parce que le risque à prendre est beaucoup trop important que pour enfreindre les règles de bon fonctionnement du réseau.
La question et la réponse, effectivement, de Jean-Marc faisait écho, pour moi, à aussi un cas qui s'est posé il y a, je pense, un an ou un an et demi, qui a été relayé largement dans la presse, où effectivement un médecin d'assurance a été, parce qu'il était aussi médecin, puisqu'un médecin d'assurance peut avoir une double casquette, être médecin assurant d'un côté, et aussi être médecin spécialiste dans le secteur hospitalier. Et il avait usé de cette casquette médecin hospitalier pour aller voir le dossier d'une patiente, non pas avec laquelle il avait une relation thérapeutique dans le cadre d'hôpital, mais d'une patiente ou d'un patient dans le cadre de la médecine d'assurance. Et alors certains qui nous écoutent pourraient dire, vous voyez, notre système n'est pas sécure. Je dirais, justement, il est sécure. C'est-à-dire qu'on a pu, il y a une traçabilité, il y a des logs qui nous permettent de vérifier ça. Et avec l'arsenal juridique, effectivement, que Jean-Marc a évoqué, c'est d'être poursuivi. Vous pouvez imaginer quand il s'agissait du papier, on ne mettait pas des caméras. Et après, on pourra voir avec Mathilde, mais on sait que dans certains hôpitaux, parfois, quand je me balade, je vois certaines portes ouvertes et certaines armoires ouvertes. Je peux imaginer qu'il n'y avait pas des caméras pour surveiller si le médecin était bien celui qui pouvait avoir accès à tel dossier papier qu'il allait ouvrir. Avec l'informatique, on a cette sécurité, justement, d'assurer une traçabilité et de poursuivre en cas d'abus.
Christine, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais rajouter, aller tout à fait dans ce sens. Donc, il faut savoir que quand on fait un accès par voie informatique, chez nous, tous les accès sont tracés. Et donc, on peut aller regarder 30 ans en arrière, on conserve toute action qui a été faite, que ce soit consulter un document, publier un document, on va conserver toute cette trace, ces logs d'accès, comme on dit, pendant 30 ans. Notre système permet vraiment un monitoring très fin. Le patient, et donc on invite évidemment les patients à aller se connecter, à aller regarder, et le patient peut voir qui a accédé à son dossier en général. Il peut aussi voir qui a accédé à chacun des documents en particulier. Donc, il y a une petite colonne qui s'appelle « Trace ». Et donc, voilà, si quelqu'un a consulté un document, on va tout de suite pouvoir le voir. Et les prestataires de soins vont aussi pouvoir voir qui a accédé au dossier du patient. Donc, il y a aussi quelque part, je dirais, un « peer review », comme on dit. Hein. Attention, ce que vous faites, d'autres peuvent le voir. Et en effet… En cas d'abus, vous pouvez être sanctionné.
Et donc, par rapport effectivement au système-là, on avait évoqué au début du débat la question de l'accès aux données en disant ce sont uniquement des prestataires avec une relation thérapeutique, il faut ce consentement. Ce qu'il y a aussi comme troisième élément de balise pour l'accès aux données de santé, c'est ce qu'on appelle la matrice d'accès. Et ça fait typiquement réponse à la question que vous posez sur cette évolution aussi de la société, du comportement des médecins, de dire on ouvre les données du patient et essentiellement forcément les données des médecins généralistes et spécialistes à d'autres prestataires de soins, que ce soit l'infirmière domicile, le kiné, le dentiste, le logopède, toujours évidemment en lien avec les données qui sont nécessaires et pertinentes pour pouvoir évidemment bien le soigner. Ça, effectivement, mais rappelons que tous les professionnels que je viens de citer, et il y en a bien d'autres, évidemment, sont tenus, eux aussi, non pas au secret médical en tant que tel, mais au secret professionnel. Ce sont des prestataires de soins, soumis à une réglementation aussi, donc ils ne peuvent pas, entre guillemets, aller voir tout et n'importe quoi. Et donc, il y a une matrice qui prévoit, si vous voulez, que pour, je prends un exemple, le diététicien, le kiné, eh bien, pour l'instant, il y a une petite croix qui dit quels documents ils peuvent aller voir. Donc, les données de santé que Christine a évoquées tantôt, on va dire, celui-là peut aller voir la médication, celui-là peut aller voir la lettre de sortie de l'hôpital. Il peut aller. Et ça, ce qui est intéressant de voir d'un point de vue presque sociologique, c'est cette évolution. Quand il y a quelques années, 6-7 ans au début de l'e-santé, hein, on évoquait matrice d'accès, c'était entre médecins qui se partageaient l'information. Maintenant, avec les projets de soins intégrés, les suivis des soins à domicile, la multidisciplinarité, de facto, l'évolution aussi des mentalités des médecins, on le constate, tend, c'est pas encore gagné, mais tend vers l'ouverture, vers d'autres prestataires de soins, dans l'intérêt du patient.
Ce podcast vous a plu ? Écoutez nos 5 autres podcasts relatifs à la sécurité des données santé partagées. Ils traitent des fondements du partage des données de santé, de la notion de consentement au partage de ces données, mais aussi de la sécurité des systèmes et de l'accessibilité de ceux-ci par tous les patients, ainsi que de la deuxième vie de nos données de santé. À très bientôt.